Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Stéphane Genest.
Le décryptage de la vie politique en France, comme toutes les semaines sur RFI. Avec vous, Pierre-Adrien Bartoli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des études politiques à l'Institut Harris Interactive et on va décortiquer l'actualité politique avec vous durant ces 20 prochaines minutes. Et plusieurs thématiques au menu aujourd'hui de Dimanche Politique. On va commencer par la sécurité et ce fait divers qui a ému la classe politique ces dernières heures. Jeudi soir à Poitiers, une fusillade a fait un mort et blessé 4 personnes. Fusillade sur fond de trafic de drogue. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, parle de mexicanisation de la France en référence aux pratiques des cartels mexicains. Un constat plus ou moins partagé sur RTL par Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National.
Le laxisme judiciaire pose un énorme problème, mais la France est gangrénée par l'ultra-violence. Notre système judiciaire est incapable de la juguler par idéologie, par laxisme, par manque de moyens aussi.
Et pour plusieurs ministres, il faut de la fermeté. C'est le cas d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Elle l'a dit sur France Inter ce midi.
Il faut agir. Et agir très fermement, c'est... Ce que avait porté Éric Dupond-Moretti, si vous en souvenez, qui était une loi sur la lutte contre le narcotrafic et qui allait jusqu'à considérer que même un règlement de compte de nature crapuleux et qui souvent est traité par des juges non professionnels, donc des jurés sur lesquels on peut faire pression, devait remonter au niveau de ce parquet professionnel parce que ces petits règlements de compte, en fait, participent de trafic beaucoup plus organisé, qui d'ailleurs, pour certains, viennent nourrir, viennent financer le terrorisme.
Pierre-Adrien Bartoli, la question de la sécurité, c'est le dossier qui revient sur le haut de la pile de tous les gouvernements depuis des années maintenant.
Oui, peut-être pas le plus haut de la pile, mais pas loin. On a testé, juste après l'entrée en scène du nouveau gouvernement, les priorités que les Français leur attribuaient. Pouvoir d'achat en première place, nettement devant, c'est assez classique depuis quelques années. Mais effectivement, le deuxième enjeu, c'était l'insécurité. Et cet enjeu, ce niveau d'attention porté à l'insécurité, il est élevé depuis des années, mais il est en progression. Nous, on mesure depuis quasiment 15 ans les différentes priorités des Français. On est dans l'année où elle est le plus haut. Et cette progression, elle vient du fait que la sécurité était vraiment un sujet que tenaient à cœur les sympathisants de droite, voire d'extrême droite. Mmh. Aujourd'hui, ça s'est largement répandu dans
d'autres strates
de la population. Exactement. Aujourd'hui, un électeur de gauche va aussi se dire concerné par les enjeux de sécurité, d'où le fait que mécaniquement, ça devient un enjeu pour tout le monde.
Une situation sécuritaire qui préoccupe les Français, qui préoccupe aussi Bruno Retailleau. Il veut d'ailleurs se montrer à la manœuvre, le ministre de l'Intérieur. On le disait, il parle de mexicanisation du pays. Il veut durcir la lutte, tout comme les sanctions. À l'entendre, le pays est à feu et à sang. On n'en est pas là. Hein. Ce sont des faits divers ou des faits de société, ce qui s'est passé notamment à Poitiers?
En tout cas, c'est vécu par les Français comme des faits de société. Ça fait écho à des choses qui soit sont vécues, soit qu'ils ont vues, entendues via les médias par ailleurs, ce qui fait système et qui donne l'impression qu'on est dans une France dans laquelle on est de moins en moins en sécurité. Après, se pose la question de la réponse qu'on apporte à ça. Là, pour l'instant, on a un terme qui est un terme fort. Le vrai enjeu des Français, ça va être la réponse sur le terrain. Au final, on a des Français qui ont entendu différents termes ces derniers mois, dernières années. La question de l'ensauvagement de Gérald Darmanin.
Oui, l'ancien ministre de l'Intérieur.
Exactement. Même Emmanuel Macron, d'ailleurs, a parlé de décivilisation pour aborder ce sujet-là.
Ce sont des termes forts, mexicanisation, ensauvagement et décivilisation.
Absolument.
À dessein, par des autorités politiques.
Absolument, mais sur ce thème-là, comme sur les autres d'ailleurs, il y a une vraie attente de la part des Français d'une forme de retour du politique. C'est-à-dire que le verbe est important, dire les choses et nommer les choses pour eux est important, mais les résultats ensuite le sont tout autant. Alors, le ministre vient d'arriver depuis quelques semaines, donc évidemment, les Français vont être patients et voir si des résultats arrivent, mais on sent qu'il y a une forme d'attente autour de cet enjeu-là.
Oui, ce n'est pas que de l'affichage politique.
Absolument.
Et on peut parler d'une stratégie Retailleau. Je repense à un ancien ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, et ses mesures, ou plutôt ses phrases choc quand il occupait ce poste. Pour nous, Retailleau est un peu dans ce ton-là.
Oui, c'est sûr que le poste de ministre de l'Intérieur, c'est un peu le poste du coup de com' permanent, parce que par définition, on doit réagir aux faits divers ou aux faits d'actualité. D'ailleurs, si on ne le fait pas, on est nettement critiqué, parce qu'on n'est pas dans son rôle. Après, le problème, c'est qu'on le sait, régler ces problèmes-là prend du temps, et quelque chose de beaucoup plus profond. Et dans une période où on va se dire que le sujet n'est plus un sujet parmi d'autres, mais le sujet ou l'un des deux sujets avec le pouvoir d'achat qu'on évoquait tout à l'heure, j'ai peur que les termes ne suffisent pas.
Et le prédécesseur de Bruno Retailleau, on le disait, Gérald Darmanin, avait mis en place les opérations Place Nette, opérations pour limiter le narcotrafic dans les villes, notamment de province. Bilan pour le moins mitigé, on le constate avec ces faits divers de ces derniers jours. Quelle est la marge de manœuvre de Bruno Retailleau?
C'est compliqué. Les opérations Place Nette étaient effectivement à la fois un enjeu de communication, montrer qu'on faisait des choses sur le terrain. Après, les bilans sont quand même assez contrastés. D'ailleurs, le ministre d'Aragon le disait lui-même, qu'au final, oui, on déplaçait un problème, mais en enlevant un point de deal, on crée une sorte d'appel d'air et voire pire que ça, une concurrence entre différents groupes qui vont s'affronter pour l'occuper. Donc, potentiellement encore plus de violence. Je crois que personne n'a la solution jusqu'à présent. Le problème, c'est que l'attente de l'opinion, elle se fait de plus en plus pressante.
Et donc, il faut répondre. Mais pour autant, dès que Bruno Retailleau veut frapper fort, il est souvent contredit par son homologue à la justice, le garde des Sceaux, Didier Migaud. Marge de manœuvre encore plus fine pour lui, finalement.
Ça, c'est toujours compliqué. Mais ça, honnêtement, c'est assez classique. Hein. Les sortes de dialogue à deux entre le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, qui est là aussi pour tuteler les juges et leur indépendance, et puis le ministre de l'Intérieur qui va réagir à ces différents faits et lui porter la parole des policiers. C'est un dialogue qui est assez classique. Il a commencé dès les premiers jours du gouvernement, d'ailleurs. Meurtre de Philippine, on s'en souvient.
C'est une jeune femme qu'on a retrouvée dans le bois de Boulogne, enterrée, âgée de 16 ans.
Exactement. Et il est probable que ce dialogue entre les deux continue. La question, c'est est-ce qu'on arrive à trouver des mesures qui permettent de changer le fond de la situation? C'est là-dessus que les Français les attendent.
Et est-ce que finalement, attirer l'attention des Français sur la sécurité, c'est aussi une manière de détourner le regard sur un autre sujet qui est le budget, dont les débats patinent à l'Assemblée nationale en ce moment?
Les Français ne sont pas passionnés par la question du budget.
Pourtant, ça les concerne.
Voilà, et pourtant, c'est très important. Non, la question de la sécurité est très importante pour eux, et donc ça attire facilement le regard. Je ne pense pas que ce soit uniquement une question de jeu politique. Il y a un vrai intérêt.
Stéphane Genest.
Dimanche politique, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter l'actualité politique avec Pierre-Adrien Bartoli de l'Institut Harris Interactive. On va parler budget, tiens, à présent, on l'évoquait. Puisqu'à partir de demain, 10h, les députés vont poursuivre l'examen du budget pour 2025. Discussion qui vont durer, c'est ce qu'estime Laurent Saint-Martin, le ministre chargé du budget et des comptes publics.
Nous avons dit que nous voulions que l'Assemblée nationale puisse voter sur son budget. Après, il y a le Sénat qui fera de même. Et puis nous verrons bien si les chambres se mettent d'accord. Et puis nous déciderons à ce moment-là. Permettez que nous soyons respectueux des délais et des débats. Et puis nous verrons, ça nous renvoie à début décembre à peu près à ce moment-là, ce que nous ferons. Et nous verrons s'il y a une possibilité de mise en accord des deux textes. Et le gouvernement verra en fonction du texte, s'il engage sa responsabilité ou non. C'est trop tôt pour le savoir.
Laurent Saint-Martin qui était l'invité de France 3. Pierre-Adrien Bartoli, les députés ont adopté ces derniers jours plus de 40 milliards d'euros de nouvelles taxes. L'article 49.3 qu'on comprend en sous-texte par Laurent Saint-Martin, dont on a beaucoup parlé, lui, n'a pas encore été déclenché. Le chef du gouvernement, on l'a entendu, veut des débats parlementaires, des débats à l'Assemblée. Est-ce que ces débats vont atteindre leurs limites ?
Il y a plusieurs sujets. Déjà, on en parlait tout à l'heure, en termes de priorité, les Français ne sont pas passionnés par cette question du budget, alors que pourtant c'est évidemment très important. D'ailleurs, ils ne sont pas passionnés par la question des comptes publics et de l'équilibre des comptes publics.
C'est technique.
Et puis ça, c'est intéressant de se dire que ça a été un peu le grand sujet des années 2010, post-crise et dette publique en Europe, et qu'aujourd'hui, notamment suite au Covid et quoi qu'il en coûte, on a mis un petit peu sous le boisseau. Donc ça devient un sujet un peu plus politique, un sujet de spécialité. Le problème du gouvernement et de Michel Barnier, c'est évidemment qu'il a un enjeu à montrer que les discussions servent à quelque chose. On est dans un système politique qui est quand même assez inédit. Jusqu'à présent, le budget, c'était une forme de formalité, voire de théâtre, dans lequel le gouvernement préparait son budget, pouvait accepter quelques amendements.
Ça fait 2 ans que ça ne l'est plus.
Exactement. Accepter quelques amendements, et puis ensuite le faisait voter par la majorité qui, de toute façon, allait le faire, et l'opposition allait s'y opposer. Et d'ailleurs, traditionnellement, dans la 5e République, l'opposition au budget de la part des différentes oppositions parlementaires, c'est une manière de bien montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce que porte le gouvernement. Donc on sort de cette symbolique historique et on rentre dans une autre symbolique qui est celle de l'échange, le compromis, l'amendement, tout en sachant qu'à la fin, il y aura ce juge de paix, en tout cas potentiel, qui est le passage du budget par la procédure du 49.3. Donc 49.3, qu'est-ce que c'est? Le gouvernement fait un texte à sa main, ne le fait pas voter, le fait adopter directement sans le vote de l'Assemblée, et en retour, en revanche, l'Assemblée peut destituer le gouvernement, c'est ce qui s'appelle une motion de censure. Et évidemment, pour l'instant, on est dans la phase de discussion, amendement, mise en conformité du texte en fonction des présents dans l'hémicycle, enfin, tout ça est quand même un long débat, mais ensuite, il y aura le juge de paix qui sera ce que fait le gouvernement. Est-ce que le texte sur lequel vont arriver les députés avec le nombre important d'amendements va être acceptable par tout le monde, à commencer par le gouvernement? C'est pas sûr. Si ça ne l'est pas, est-ce qu'il décide de déclencher, parce qu'il faut bien voter un texte, et de déclencher la procédure du 49-3? Si oui, sur quelle base? Est-ce que c'est le budget initial? Pas sûr. Il y a beaucoup d'amendements qui viennent quand même de députés de la majorité, qui sont des amendements intéressants, enfin qui vont plaire au gouvernement pour certains, et puis qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas dire à la majorité qu'elle a déposé énormément d'amendements et qu'on les met à la poubelle avant le 49-3. C'est compliqué politiquement. Donc quel texte ensuite? Et puis la dernière étape, s'il en passe par ce chemin-là, quelles oppositions pour voter une éventuelle motion de censure après cet éventuel 49-3? Bon, on est dans des conjectures là, mais ça peut arriver.
Oui, mais c'est important aussi de les comprendre. Pour faire des économies, chacun y va de sa petite idée. Il a été évoqué la suppression du délai d'un jour de carence en cas d'arrêt maladie pour les fonctionnaires, pour s'aligner au délai de 3 jours pour le privé. Une autre idée, c'est transformer un jour férié en journée de solidarité, ou même un retour de la taxe d'habitation, ce que les ministres des territoires dément fermement aujourd'hui. On a l'impression qu'on cherche de l'argent un peu partout. C'est cette impression qu'on a, Pierre-Adrien Bartoli ?
Oui, c'est clair. Enfin, l'engagement est celui-là. Après, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, il y a une vraie décorrélation entre la manière dont les Français perçoivent la situation et la manière dont les députés sont en train de voter le budget. Enfin, en tout cas,
pour autant, si on touche au jour de carence, ou si on touche à la taxe d'habitation, ou même au jour férié, là, ça concerne les Français.
C'est ça.
Et on les a vus réagir, par ailleurs.
C'est ça qui est explosif. D'ailleurs, les syndicats de la fonction publique ont déposé un préavis de grève pour les semaines à venir. C'est ça qui est explosif. Comme toujours, quand il y en a des mesures qui sont votées, la question est moins celle de leur popularité que de la compréhension de l'objectif de ces mesures. En l'occurrence, cette compréhension, elle est partielle. Les Français, ils n'ont pas l'impression que le pays est au bord de la faillite. Les Français, ils sont dans une logique, qu'on partage ou qu'on ne partage pas d'ailleurs, mais en tout cas, ils sont dans une logique dans laquelle, lorsqu'il y a un enjeu important pour la population, l'État peut sortir beaucoup d'argent. C'est le quoi qu'il en coûte du Covid. Et si le quoi qu'il en coûte du Covid a fonctionné il y a quelques années, c'est assez peu compréhensible qu'aujourd'hui on doive se serrer la ceinture à ce point-là. Tant que cet effort de pédagogie n'est pas fait, ou en tout cas que les Français ne rentrent pas dans cet haut état d'esprit, ils l'ont été par le passé, on le disait lors de la période de la dette souveraine, c'était le cas, mais tant que les Français ne rentrent pas dans ce nouvel état d'esprit, ça va être difficile pour eux de comprendre qu'il faut faire des efforts pour un objectif qu'ils ont du mal à comprendre.
On évoquait les débats à l'Assemblée nationale et on a vu ces derniers jours des articles du gouvernement critiqués et par la droite et par les membres du parti présidentiel. Il y a de la friture sur la ligne dans cette alliance, dans cette semblante coalition?
C'est compliqué à deux titres. Un, il faut se mettre d'accord alors qu'on ne vient pas complètement de la même famille politique, on n'a pas forcément les mêmes idées, ça l'est toujours, on n'est quand même pas dans un pays avec une culture de l'association ou du compromis extrêmement fort. Et puis il faut le dire, enfin, ça va être un budget d'austérité, ça va être un budget qui va être dur et politiquement il va falloir le porter. Je rappelle quand même qu'on n'a pas de majorité absolue, ni même relative, d'ailleurs à l'Assemblée, c'est un peu bricolé cette affaire. Donc il n'est pas impossible qu'on ait une dissolution dans les années à venir et que cette législature ne dure pas 5 ans comme prévu. Ce qui veut dire que potentiellement on a des députés aujourd'hui qui vont voter des mesures d'austérité dures et qui peut-être, dans quelques mois, vont devoir retourner dans leur circonscription, les expliquer à leurs électeurs en leur demandant un nouveau mandat. Pas simple à porter. Donc, une des manières de faire, c'est d'essayer de ne pas être complètement associé aux mesures qui vont passer dans le budget, y compris quand on est dans une partie de la majorité, ce qui est assez nouveau.
Et porter ce budget, le défendre, c'est aussi la mission du gouvernement, de l'exécutif. Une opération cohésion va être mise en place pour ces membres du gouvernement. Un séminaire gouvernemental va débuter cette semaine. Il y a de l'eau dans le gaz au cœur du gouvernement. Il faut resserrer les rangs pour faire bloc, justement, face à ce qu'on évoquait, ce budget qui fait beaucoup débat.
Je ne sais pas, pour le coup, je ne suis pas au Conseil des ministres, mais ce qui est intéressant de voir, c'est de se dire qu'on a un gouvernement qui a besoin d'envoyer un signal aux Français. Le signal, c'est on n'est pas un gouvernement très large, très hétérogène, très disparate, qui permet de faire voter un budget en cette fin d'année, puis ensuite, on s'arrête là.
Et on fait autre chose.
Déjà, on ne peut pas s'arrêter là, parce que techniquement, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée avant l'été prochain, donc il va bien falloir un gouvernement pour prendre quelques mesures, en tout cas, au moins que la France continue à avancer. Donc, l'objectif du gouvernement, c'est aussi de montrer que, certes, le budget est très important, et qu'il prendra le temps qu'il faudra, enfin, jusqu'à Noël, de fait, mais qu'il n'a pas ce seul mandat, qu'il a d'autres projets pour la France, qui peuvent aller jusqu'à l'été, ou même au-delà. Et il y a un vrai enjeu d'affichage, et c'est pour ça que le séminaire aura lieu demain.
L'actualité politique française rattrapée par l'actualité internationale et l'élection présidentielle américaine. Elle se déroule mardi, hein. Elle se joue entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump. Et pour le député RN Jean-Philippe Tanguy, le parti ne penche ni pour l'un ni pour l'autre.
Je ne crois pas forcément aux personnalités comme ça qui tombent du ciel. Les États-Unis, ils ont une stratégie, ils ont une vision. Faut pas tomber dans une espèce de caricature où on fait croire que parce qu'il y a un président, une présidente qui est élue, tout va changer. Mais je crois qu'on surestime tout cela, oui. Je pense que tout cela est surestimé, qu'on essaie de faire peur. Moi, je le vois bien dans les médias. On essaie de faire peur aux Français en présentant Trump comme une espèce de nouveau fasciste, en présentant Kamala Harris comme le messie.
Le Rassemblement National qui semble prendre ses distances avec Donald Trump. Comment on peut expliquer cela, Pierre-Adrien Bartoli?
Il y a une vraie évolution de l'opinion. Alors, je ne dis pas que tout est stratégique, hein, évidemment, mais bon, on a le droit de ne pas être dupe. On a une image de Donald Trump aujourd'hui en France qui est très mauvaise. On a les trois quarts des Français qui en ont une mauvaise image. Il représente quelque chose que les Français rejettent complètement. En 2016, juste avant son élection, on avait des Français qui étaient plus partagés, c'est-à-dire qui rejetaient Donald Trump, mais qui étaient un peu plus partagés. Et notamment, quand on zoome au sein de la population auprès des sympathisants du FN, à l'époque, oui, le Front National. Eux étaient à peu près à 50-50, c'est-à-dire que la moitié le trouvait fréquentable et intéressant, on avait une bonne opinion, et l'autre moitié non. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, quand on interroge en France les sympathisants du RN, donc le Rassemblement National, on a une majorité qui préfère la défaite de Trump et la victoire de Kamala Harris. Donc forcément, pour le Rassemblement National aujourd'hui, c'est difficile d'afficher un soutien clair, net, comme à l'époque, et on a cette prise de distance qu'on a entendue dans l'extrait.
Et ce vote aura, quoi qu'il en soit, des conséquences en France?
Oui, bien sûr, parce que, enfin, il y a différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a la conséquence directe, la conséquence évidente de ce vote-là, ça va être le soutien des États-Unis à l'Ukraine, le rôle de l'OTAN demain, la question du protectionnisme américain qui va avoir un vrai impact, hein, pour nos vignerons qui exportent leur vin.
Oui, avec les droits de douane, c'est ça, les taxes.
Donc il y a des enjeux très concrets. Et puis il y a un enjeu symbolique. C'est-à-dire que la démocratie américaine, c'est pas rien symboliquement quand on est européen, d'ailleurs dans le monde entier. Il y a une forme de symbole, on a une forme de fascination pour cette démocratie et on essaye de déceler des tendances un peu lourdes, des tendances peut-être avant-gardistes qui pourraient nous toucher. Et il se passe quand même beaucoup de choses dans cette campagne. Le phénomène Trump, alors qui n'est pas nouveau, mais ce populisme un peu transgressif.
On parle beaucoup de Trumpisation des débats, même en France. Hein.
Et de rapport à ce qu'on a appelé la post-vérité, c'est-à-dire une forme d'effacement des lignes entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. On entend souvent ce terme de fake news, donc de fausses nouvelles. C'est intéressant de se dire que ces éléments-là ne vont pas rester complètement enfermés sur le territoire américain. La violence en politique, c'est pareil. Alors on sait qu'historiquement, les États-Unis sont quand même un territoire plus violent, que la politique sur place est quand même très particulière. Mais là, on a eu une élection avec deux tentatives d'assassinat d'un des deux candidats principaux. C'est pas rien, c'est quelque chose de spécifique. Et quand on voit, par exemple, chez nous, à petite échelle, mais il ne faut pas le banaliser, les maires qui sont régulièrement agressés dans le cadre de campagne, on se demande s'il y a là une sorte de schéma qui est en train de se passer aux États-Unis et qui pourrait éventuellement arriver en France. Le dernier point peut-être sur cette élection américaine qui est importante pour nous, c'est la polarisation. Ce qu'on voit aux États-Unis, c'est une polarisation croissante, pas nouvelle, hein, mais croissante des deux camps qui ont du mal à se parler, du mal à se comprendre, du mal même à accepter la défaite. D'ailleurs, ça a été le cas il y a 4 ans. Il va falloir observer ça de manière très franche cette semaine si les résultats arrivent vite, ou en tout cas les tendances se dessinent de manière claire assez vite. En France, on connaît un petit peu ça aussi, cette forme de polarisation, cette difficulté à dresser des ponts, les difficultés à monter un gouvernement, à passer des accords. C'est un petit peu aussi cette même histoire qui se raconte. Donc on regarde ça avec une loupe et une attention. On est un peu loin, mais on sait qu'il y aura des effets sur nous, des effets concrets sur notre vie,
oui,
c'est évident,
économie,
mais également potentiellement à moyen terme, des effets sur notre démocratie. Et c'est pour ça que les Français sont quand même attentifs à ce qui se passe.
Merci beaucoup Pierre-Adrien Bartoli, directeur des études politiques à l'Institut Harris Interactive. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation des RFI et d'être venu ici avec nous pour participer à Dimanche Politique. Dimanche Politique, émission hebdomadaire que vous retrouvez quand vous le souhaitez, évidemment, sur notre site RFI.fr et puis en podcast sur l'application RFI Pure Radio. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à l'écoute de la Radio du Monde.